mauvaise foi. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais
ce lundi soir 18 août 1980, nous allons continuer de nous mettre à l'écoute du Fils de l'homme. Mais je ferai tout d'abord une lecture qui servira de toile de fond à notre message. C'est dans le chapitre 18 de Luc. L'enseignement que donnait Jésus alors qu'il était en chemin vers Jérusalem. Si nous avions lu le chapitre 17, mais je ne le ferai pas ce soir, nous aurions entendu les pharisiens demander à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Quand s'accomplirait au fond toutes les promesses que les prophètes avaient apportées de la part de Dieu au sujet de ce royaume qui devait être établi par le Messie. Alors au chapitre 18e, donc qui fait suite à la réponse que Jésus a donnée aux pharisiens concernant l'établissement de ce royaume, Jésus s'adresse aux foules une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, vous savez comment on parle en soi-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Et je souligne cette parole. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur
la terre. Les droits du Fils de l'homme. Parmi ces droits, il y a celui-là. Il a droit, à son retour, de trouver sa foi sur la terre, à son retour. La question pour nous est celle-ci, la trouvera-t-il ? Y a-t-il dans nos cœurs la foi au retour de Jésus-Christ ? Y croyez-vous ? Croyez-vous que le Seigneur reviendra ? Il y a des cantiques où l'on chante le retour du Seigneur. Mais on peut chanter le retour du Seigneur et ne pas l'attendre. Il y a une très grande différence entre connaître la vérité concernant le retour du Seigneur, la parousie, et attendre actuellement le Seigneur. Et si vous voulez savoir dans quelle mesure vous croyez au retour de Jésus, vous n'avez qu'à vous poser cette question, est-ce que je l'attends ? Est-ce que j'ai vécu aujourd'hui en me disant, eh bien c'est peut-être ma dernière journée ? Pas parce que je vais mourir, mais parce que avant minuit, le Seigneur sera venu. Parce qu'un soir, ce sera le dernier soir. Un matin, ce sera le dernier matin. Parce qu'un jour, il sera venu. Figurez-vous que pendant des milliers d'années, on s'est entretenu de cette promesse qu'un libérateur viendrait pour sauver les descendants d'Adam. En est de même, quand Dieu a chassé Adam et Ève, il n'a pas pu s'empêcher de leur faire une promesse de miséricorde, ce qu'on appelle le protévangile, verset 15 du chapitre 3 de la Genèse, où il annonce que la puissance du serpent qui a séduit Ève et qui a fait tomber Adam, cette puissance serait anéantie par la postérité de la femme. Et vous voyez la précision dans les termes. Qui est la postérité de la femme ? C'est Jésus. Il n'est pas la postérité de l'homme, mais il est la postérité de la femme. De quelle femme ? De Marie. La postérité de la femme t'écrasera la tête, dit-il au serpent, et la tête est le symbole de la puissance de quelqu'un. Elle t'écrasera la tête, cette postérité, non pas la femme, mais la postérité de la femme, c'est-à-dire Jésus, fils de Marie. Et puis toi, tu la blesseras au talon, quelle image saisissante. Le talon, c'est la partie la plus basse de notre être par laquelle nous touchons à la terre. Jésus serait donc atteint dans son humanité, pas dans sa divinité, il ne pouvait pas l'être, mais dans son humanité. Et s'il a revêtu notre humanité, c'est justement pour pouvoir accomplir cette promesse et mourir. Parce que pour vaincre la mort, il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il entre dans la mort et qu'il en sorte victorieux. Et c'est quelque chose de vraiment merveilleux de voir ces prophéties bibliques, de les lire, de sonder les Écritures et de demander au Saint-Esprit de nous permettre de comprendre. Et alors, quand on voit que tout ce qui avait été promis pendant des siècles et des millénaires a eu un jour son accomplissement, comment voudriez-vous douter des promesses concernant la venue en gloire du Seigneur Jésus ? Si nous prenons les textes de l'Ancien Testament concernant la venue du Messie, serviteur de l'Éternel, le serviteur souffrant, nous pouvons faire une biographie de Jésus extrêmement détaillée, extrêmement précise, qui correspond exactement à la vie que nous trouvons dans les évangiles. Donc, toutes les promesses concernant la première venue du Messie ont eu un accomplissement littéral. Alors, de quel droit pouvez-vous dire que les promesses concernant la venue en gloire du même Messie ne devraient pas être prises au sens littéral, mais que c'est simplement, symboliquement, que nous pouvons envisager ce retour du Seigneur. Et alors, on enlève toute la force à ces textes. Pour beaucoup, le retour du Seigneur, ce serait notre mort. Quand nous mourons, il vient pour nous chercher, dit-on. Est-ce que c'est ça le retour du Seigneur? Pas du tout. Il nous assiste à notre mort, c'est bien sûr. Mais on ne peut pas dire que la mort, c'est le retour du Seigneur. Donc, ce n'est pas la mort. On dit, il revient chaque fois que l'on prend l'Eucharistie. Est-ce que c'est ça le retour du Seigneur? Pas du tout. Nous avons communion chaque fois que nous partageons le saint repas du Seigneur. Nous avons communion les uns avec les autres et nous avons communion avec le Seigneur. Mais ce n'est pas le retour du Seigneur. Et nous aurons l'occasion de voir d'une façon précise qu'il n'y a pas de vérité mieux établie que ce retour du Seigneur. Et pourtant, il est tellement méconnu. Et les gens sont dans l'angoisse. Les gens sont dans la crainte. Il y a une crainte maintenant universelle au sujet des événements que nous vivons déjà maintenant et au-devant desquels nous allons et qui sont des événements très graves. Les athées même en parlent. On nous dit que si d'ici une vingtaine d'années il ne se produit pas quelque chose de capital, eh bien c'est la grande agonie de la planète, c'est la catastrophe qui va venir sur ce monde. Et ce sont des athées qui voient les choses ainsi. Alors, nous avons la parole de Dieu pour savoir ce qui va venir. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'il y a seulement dans l'Ancien Testament 1500 textes qui nous annoncent le retour du Seigneur. Il y a dans le Nouveau Testament, sur cette seule vérité, 325 passages de Matthieu à l'Apocalypse qui annoncent que le Seigneur doit revenir et comment ce Seigneur reviendra. Donc, tous ces textes doivent avoir leur accomplissement, car il est dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et comme un jour, celui qui avait été promis est venu, comme un jour, les anges sont apparus aux bergers de Bethléem en leur disant, je vous annonce un grand sujet de joie, dans la cité de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'était là, c'était arrivé. Mais qui l'attendait à ce moment-là? Un petit groupe de personnes qui gardaient ses promesses dans leur cœur et qui attendaient la consolation d'Israël. Parmi ces personnes, Marie, celle qui était choisie par notre Seigneur, celle sur laquelle il a pu porter les regards avec satisfaction et dire, c'est elle qui sera celle que j'ai vue et que j'ai annoncée déjà au temps d'Ésaïe le prophète, 700 ans avant la naissance de Jésus. Il était annoncé qu'une vierge, qu'une jeune fille concevrait et donnerait naissance à un enfant, dont au chapitre 9 d'Ésaïe, les noms nous sont donnés, on l'appellera donc Emmanuel, mais aussi conseiller, Dieu fort, roi de paix, Père éternel, des choses merveilleuses. Tout cela s'est accompli. Alors mes amis, un jour, le Seigneur qui a promis son retour sera venu. Mais l'époque de son retour, nous aurons l'occasion d'en parler, nous est décrite d'une façon saisissante, de sorte que nous pouvons, en sondant les Écritures, avoir la ferme conviction que nous approchons du moment où les promesses du Seigneur vont s'accomplir. Mais je vous le demande, y croyez-vous, vous, au retour du Seigneur? Est-ce que vous y croyez, ou est-ce que vous pensez que c'est une doctrine théologique de sectaire? Je ne suis pas rassuré si vous me dites que vous y croyez. Parce qu'on peut croire à beaucoup de dogmes, on peut croire à beaucoup de vérités orthodoxes, et puis rester quand même assez indifférent. Oh, ça ne me gêne pas que de savoir qu'un jour le Seigneur reviendra. Mais on ne se sent pas du tout concerné. Ça veut dire qu'on ne l'attend pas. Pour moi, c'est devenu très clair. Il n'est pas question seulement que je croie au retour du Seigneur. Il est question que je vive en l'attendant. Et c'est ça le secret d'une vie chrétienne. Quand on vit en attendant le Seigneur, bien vous savez, on ne reste pas assis sur sa chaise en disant, bien j'attends le Seigneur. On ne se met pas au lit en disant, bien voilà, maintenant moi je peux me reposer, le Seigneur reviendra. Je suis couché sur l'oreiller de la grâce, je suis sauvé par grâce. J'attends maintenant qu'il me prenne auprès de lui. Le Seigneur reviendra. Non. On se dit, j'ai peu de temps. S'il va venir, combien de jours me reste-t-il pour le servir, pour l'honorer, pour le glorifier? Parce que dans le ciel, ce ne sera plus la vie de foi. Ce ne sera plus le témoignage. On y sera. Ce sera la louange. Mais notre mesure de fidélité, ce n'est pas dans le ciel qu'elle va se manifester, c'est maintenant qu'elle se manifeste, notre fidélité. Et dans le ciel, vous aurez la récompense, n'est-ce pas? Mais vous ne pourrez pas la changer, cette récompense. La couronne sera la couronne que votre vie sur la terre aura permis au Seigneur de vous donner à votre arrivée dans la gloire. Mais ne pensez pas que dans la gloire, vous pourrez être à une certaine école et que là, vous ferez des progrès et que à ce moment-là, eh bien, vous pourrez acquérir, loin des luttes, loin des tourments, la couronne, ça sera très facile. Le salut était tellement facile, ça ne coûtait rien. Alors maintenant, la couronne, ben je pense que le Seigneur va me la donner aussi, parce que ça ne coûte rien. Mais le salut, qu'est-ce que ça a coûté? Ça a coûté la vie du Seigneur. Alors si vous prenez conscience de cela, que vous avez été racheté à un grand prix, vous voudriez, pendant le temps qu'il vous reste à passer ici-bas, consacrer toute votre vie au Seigneur Jésus. Seigneur, tu es digne que je vive pour toi. Toi, tu t'es donné pour moi. Tu as quitté le ciel pour moi. Eh bien, moi, je peux bien quitter ce monde pour toi. Je peux bien rompre avec ce monde, sa manière de vivre, pour remonter le courant, être ton témoin. Je puis me détourner des idoles pour servir le Dieu vivant et attendre des cieux Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Voilà ce que faisaient les Thessaloniciens. Ils n'avaient entendu que 3 sabbats la prédication de l'apôtre Paul, et ils en avaient reçu assez pour qu'un tel changement se produise dans leur vie. Et Paul peut dire, tout le monde dit comment vous vous êtes tourné des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. C'est quelque chose de merveilleux. Ce que la parole peut produire. Alors il vivait en l'attendant. Vivons-nous en l'attendant. cela nous délivre d'un tas d'inquiétudes. Pourquoi m'inquiéter du lendemain puisque je serai avec lui dans la gloire? Pourquoi prendre absolument les soucis d'une semaine à l'avance, d'un mois à l'avance, et me sentir ainsi écrasé? C'est tout à fait normal que je sois écrasé, il n'y a pas de miracle. Le Seigneur ne nous donne de la force que pour la journée. À chaque jour suffit sa peine. Les compassions du Seigneur, elles se renouvellent tous les matins. Alors, si vous vous envisagez tout ce qui va arriver selon vos pronostics dans le mois qui vient, eh bien aujourd'hui vous vous êtes écrasé. Vous dites, mais je ne sais pas, j'arriverai pas. Et vous êtes angoissé. Vous êtes angoissé. Mais si aujourd'hui vous dites, Seigneur, bien, je vais vivre cette journée avec la force que tu me donnes. Je vis avec la force que tu m'as donnée. Vous arrivez au soir, puis vous regardez la journée, puis vous dites, mais j'ai traversé tout cela. Et au lieu de vous faire du souci pour le lendemain, vous dites, eh bien, à chaque jour suffit sa peine. Seigneur, demain, si je me réveille, tu seras avec moi. Et le lendemain matin, au réservoir inépuisable de sa bonté, nous allons puiser. Et nous sommes renouvelés et nous vivons la journée. Puis alors tout à coup on arrive à la fin du mois, puis alors on fait son compte, on regarde tout ce mois, puis on se dit, c'est pas possible, et on a traversé tout ça, puis on est encore là. Pourquoi? Parce que le Seigneur a été fidèle, parce qu'il ne nous a pas laissés, parce qu'il a toujours eu sa délivrance au moment opportun pour nous. Croyez-le mes amis, il est toujours à l'heure le Seigneur. Mais pour nous, ce qui est le plus difficile, c'est d'attendre le dernier quart d'heure. Parce que dans ce dernier quart d'heure, on se dit, mais est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas? Ça, c'est l'exercice de notre foi. C'est parce que le Seigneur est ambitieux pour nous, et il voudrait faire grandir notre foi. Je voudrais que tu aies une confiance jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Hein? C'est à la dernière minute, ça est là. Alors, il y a tellement de joie quand on voit cela, on se sent concerné, on se dit, il dérange pour moi. Et il est à l'heure. Mais il veut voir, est-ce que tu as confiance en ma parole? Je t'ai dit que je te délivrerai. Je t'ai dit que je ne te laisserai pas, que je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que c'est vrai pour toi dans ton cœur? C'est merveilleux de pouvoir nous confier ainsi dans le Seigneur. L'attendez-vous vraiment? Est-ce que c'est une joie pour vous d'attendre le Seigneur? J'ai remarqué souvent, quand j'ai prêché sur le retour du Seigneur, que je crée automatiquement un malaise chez mes auditeurs. Je me souviens, à Morges en particulier, dans des grandes conventions où il y a bien 1500 personnes qui sont là le soir, eh bien, quand j'ai dû parler du retour du Seigneur, pourtant c'était la crème des chrétiens, comme on dit, hein. Eh bien, ils n'aimaient pas ça. Ça les dérange, parce qu'ils ne sont pas très, très au point là-dessus. Hein, parce que si le Seigneur revient, pour les enlever, qu'est-ce qu'ils vont laisser sur la terre? Leurs biens. Et à qui profiteront-ils leurs biens? Non, à personne. À l'Antichrist, au faux Seigneur qui se fera adorer, et tout ce qui aurait pu être financé pour le Seigneur Jésus avec les biens des chrétiens, eh bien, c'est l'Antichrist, c'est le faux prophète, c'est l'homme de péché, c'est l'inique, c'est l'apostat qui va en bénéficier. C'est quelque chose de tragique. Alors vous comprenez bien que ces gens qui arriveront là-haut, parce qu'ils seront quand même sauvés, mais ils seront sauvés comme au travers du feu. Comme un Lot. Lot a été sauvé. Mais où étaient ses biens? Il avait pris sa petite valise? Non. Sa femme était tellement persuadée que ça n'arriverait pas, puis qu'elle retournerait à Sodome, qu'elle a pensé, je ne veux pas prendre seulement quelques petites choses, parce qu'elle aurait pu prendre tout, mais il n'y avait pas de déménageuse. Il fallait faire vite. Il a été sauvé comme au travers du feu, de justesse. Lui, sauvé. Mais quel témoignage, tout perdu. Tout perdu. Tandis que tout ce que vous faites maintenant pour le Seigneur, vous vous amassez un trésor dans le ciel. Et alors, en mettant toute chose pour le Seigneur, en donnant tout au Seigneur, vous avez tout devant vous. Puis il n'y a plus rien derrière vous qui vous retient. Comprenez-vous? Alors, envisagez que vos biens les meilleurs, vos placements les meilleurs, c'est les placements que vous faites pour le Seigneur. À la banque du ciel, et cela rapporte un trésor que vous retrouverez. Et dans la mesure où vous aurez été fidèle sur la terre, dans l'administration de vos dons et de vos biens, le Seigneur pourra vous confier beaucoup dans l'administration de son royaume. Parce que l'école de la vie nous prépare pour le royaume de Dieu, pour être les ministres du Seigneur dans ce gouvernement qu'il va établir dans le monde. Un gouvernement fait d'hommes régénérés, d'hommes et de femmes qui ont aimé le Seigneur et qui ont voulu le suivre complètement. Le Seigneur reviendra. Un jour, il sera venu. Êtes-vous à l'aise ce soir? Si nous disions que le Seigneur revient à minuit, que feriez-vous? J'espère que vous feriez ce que vous vous êtes proposé pour cette soirée. Vous n'auriez rien à changer. On ne devrait rien avoir à changer. Parce que si on vit avec le Seigneur, on essaye, on s'efforce de faire sa volonté. Parce qu'on est en communion avec lui. On est bien obligé de se proposer certaines choses. On a pensé qu'on irait voir les étoiles. Ce serait drôlement beau qu'ils viennent pendant qu'on regarde les étoiles. Hein. Alors, il n'y a rien à changer. On va voir les étoiles, puis tout à coup, on va y monter. Sans le bruit de tonnerre du Cap Kennedy. Quand une fusée monte. Vous vous rendez compte, cette attraction, tout à coup, échappée à la loi de la pesanteur, puis décoller. Ah, ce décollage, hein. Décoller, s'en aller, sur les nuées du ciel. Puis mes habits, je ne suis pas convenable pour aller au ciel avec cette chemise-là. Hein? Oh, j'aurai un vêtement blanc quand j'arriverai là-haut. C'est merveilleux. En un instant, en un clin d'œil, nous serons transformés. Nous revêtirons ce corps glorieux. Vous vous imaginez? Mais les chrétiens n'ont plus d'imagination. Ils vivent leur enterrement. Ils vivent leur séance au salon mortuaire. Ils entendent déjà tous les commentaires des gens qui viendront les regarder. Il n'a jamais été si beau. Quelle belle couleur il a. Il a l'air en pleine santé. Et naturel, oui. Quand on les voit avec leurs lunettes, je me dis toujours, pourquoi qu'ils leur mettent des lunettes? On est drôlement idiots. Quelle comédie nous menons sur cette terre. C'est effrayant. Effrayant, effrayant. Mais si nous étions enlevés ce soir, en regardant le ciel, ce serait une belle occupation. Parce qu'on ne peut pas regarder le ciel sans nous dire, mais qu'est-ce qu'il y a plus loin encore? Ces demeures de la maison du Père, les aimables demeures de la maison du Père, la place que personne ne pourra me ravir. On peut me prendre la place sur la terre, qu'est-ce que ça peut faire?
De toute façon, je sais que si je dois mourir, il n'y aura pas de place pour moi sur la terre. Je serai sous la terre, ce qui reste de moi. Mais mon esprit sera avec le Seigneur en attendant le jour de la résurrection. Alors de toute façon, que nous devions vivre, que nous devions mourir, que nous soyons de ceux qui seront vivants à son retour, nous n'avons plus de préoccupations, nous voulons vivre à sa gloire. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous sommes son bien, nous lui appartenons. 14 dit Romains verset 8, c'est quelque chose de merveilleux. La vie est complètement transformée quand on attend le Seigneur d'une attente amoureuse, parce qu'il est quelqu'un pour nous, parce qu'on l'aime, parce qu'il nous a aimés, et que nous ayant tellement aimés, eh bien, on comprend qu'il a le droit à ce qu'on l'aime. Voilà un de ses droits dont nous avons parlé un soir. Et s'il nous a aimés de cet amour et qu'il a pu obéir à son Père et venir pour nous racheter, souffrir toutes les souffrances et endurer la mort de la croix, s'il a obéi jusqu'à la mort et à la mort de la croix, il a bien le droit aussi à notre obéissance. Ça a été une de nos secondes réunions, son droit à notre obéissance. Et alors, quant à nos péchés qui étaient un fardeau pour nous, qui nous inquiétaient, on se demandait comment s'en débarrasser, on avait une mauvaise conscience, on avait peur de la mort, parce qu'au fond, pourquoi est-ce qu'on a peur de la mort souvent? C'est à cause de nos péchés. Parce qu'on sait très bien qu'après la mort, suit le jugement. Et pourquoi est-ce qu'on a peur du jugement? Alors qu'on a dit on n'a jamais fait de mal à personne, puis pourtant on a peur du jugement. Parce qu'on sait très bien que devant le juge suprême, quand notre vie paraîtra dans cette lumière éblouissante, tout à coup, on se verra tel que nous étions. On n'aura plus d'illusions. Et on sait très bien que tel que nous sommes perdus. Mais alors, si nous avons le pardon de Jésus, si nous nous savons pardonner, est-ce que nous craignons le jugement? Nous sommes passés de la mort à la vie et nous ne venons pas en jugement. Parce que le Seigneur nous a pardonnés. Il avait ce pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. C'était encore une de nos rencontres où nous nous sommes occupés de ce droit qu'avait le Seigneur de pardonner. Et il avait le droit de pardonner parce qu'il prenait tous nos péchés à son compte et qu'il allait payer la dette de nos péchés par sa propre vie. Nous avons vu aussi combien il était nécessaire que nous le confessions aujourd'hui, que nous osions dire « Il est mon Sauveur, il est mon Seigneur ». Et vous avez eu l'occasion dans ces baptêmes de voir des hommes et des femmes qui ont osé prendre position devant vous et confesser ouvertement que leur vie appartenait au Seigneur. Ils en ont témoigné dans le baptême. Qu'à leur vie passée, ils renonçaient et que réellement, ils confessaient Jésus comme maître de toute leur vie et de ce qui leur restait à vivre. Que ce soit court ou que ce soit long, peu importe, dit saint Paul, pourvu que je vive pour le Seigneur. Alors, c'est quelque chose de merveilleux. Vous avez confessé le Seigneur, eh bien, lui vous confessera aussi devant son Père et devant les anges dans les cieux. Mais si vous le reniez sur la terre, il aura le droit de vous renier dans le ciel. Ça a été aussi une heure bénie que nous avons eue ensemble. Car, nous l'avons vu le soir suivant, le Seigneur, parce qu'il est fils de l'homme, a reçu le droit de juger. C'est lui que Dieu a nommé pour être juge des vivants et des morts. Pour quelle raison? C'est lui, parce que lui a payé pour tous les hommes. C'est lui qui jugera tous les hommes, parce qu'il a payé le prix de leur salut, quel qu'il soit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi seul le Seigneur sera juge de toute la terre. Nous avons vu ensuite que vraiment le Seigneur avait tous les droits, puisqu'il était le maître du sabbat. Le Fils de l'homme est le maître du sabbat, il est celui qui l'a instauré, il est celui qui a fait les lois, alors il est le maître de la loi. Il est au-dessus de la loi, puisqu'il est le souverain. Et ce soir, eh bien, je voulais simplement souligner que le Seigneur a droit à trouver en nous la foi quand il viendra. Alors, qu'est-ce que la foi pour vous? Je veux croire que petit à petit, certaines vérités pénètrent dans vos cœurs et que cette expression « le Fils de l'homme », vous la comprenez mieux, peut-être qu'au début, je vous ai rappelé que plus de 80 fois, dans le Nouveau Testament, nous entendons Jésus se nommer lui-même le Fils de l'homme. Et il aimait prendre ce titre parce que cela soulignait sa raison d'être sur la terre. Il avait pris un corps d'homme, il vivait au milieu des hommes afin de sauver les hommes. Il a voulu représenter les hommes. Alors, pour représenter les hommes, il faut être un homme. Mais en même temps, pour pouvoir délivrer les hommes, il fallait qu'il soit Dieu. Alors, il était Dieu et il était homme. Les deux natures, fils unique et éternel de Dieu et fils de l'homme par son incarnation. Ce mystère insondable, comment est-ce qu'un Dieu peut devenir un homme? Le Dieu unique, s'il n'était pas Dieu, il ne pourrait pas devenir un homme. Mais puisqu'il est Dieu, il peut toutes choses. Mais c'est une folie que de devenir un homme quand on est un Dieu et de se laisser prendre par les hommes. Si vraiment il voulait vivre notre condition humaine, être comme un homme ici-bas, il pourrait souffrir, il pourrait être arrêté, il pourrait subir toutes les injustices que subissent les hommes. Mais c'est ça qui lui est arrivé. Il a vraiment assumé notre condition humaine mieux que Malraux n'a pu définir cela dans son fameux ouvrage « La condition humaine ». Jésus a assumé notre condition humaine de la naissance à la mort. Alors, il peut vous comprendre dans toutes les situations. Il peut nous comprendre dans notre enfance, dans notre adolescence, dans nos luttes de jeunesse et jusqu'à la maturité. Car, et j'aime à le souligner, pour Jésus, il n'y a pas eu de vieillesse. C'est pourquoi il n'y a pas chez les chrétiens qui connaissent le Seigneur d'une façon intime, il n'y a plus cette peur de la vieillesse. Il y en a qui sont paralysés, qui n'ont pas accepté l'idée de vieillir. Alors ils doivent lire le livre de Simone de Beauvoir pour s'aider à vieillir, à accepter la vieillesse. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie de vieillard. La vie chrétienne, c'est quoi? C'est la vie de Jésus. Alors, la vie de Jésus, vous pouvez voir Jésus enfant, vous pouvez voir Jésus adolescent, vous pouvez voir Jésus homme fait, mais vous ne pouvez pas voir Jésus vieillard. C'est pas vrai. Alors, la vie de Jésus, eh bien, c'est une vie de plénitude. Il n'y a pas de décrépitude. Certes, l'homme extérieur dépérit, mais ça, c'est qu'une tente. Et quand on sait qu'on a un domicile céleste, eh bien, si la tente terrestre est détruite, bien, nous savons que nous avons une maison éternelle.
dans les cieux, que nous allons revêtir un corps de gloire. Et nous voilà sans souci. Est-ce que ces choses vous disent quelque chose? Est-ce que ça touche votre cœur ou vous vous dites, heureusement que c'est bientôt fini? Je pense que vous avez compris cette expression « fils de l'homme » et que vous irez, si vous le voulez, rafraîchir votre mémoire et vos connaissances dans le livre de Daniel que nous vous avons cité hier, au chapitre 7, et tout va s'éclairer. Où vous trouvez cette expression du fils de l'homme, Daniel dans une vision, après avoir vu quatre bêtes monstrueuses se succéder et qui représentent les quatre grands royaumes qui se sont succédés après la chute de Jérusalem. Il voit tout à coup, sur une nuée blanche, quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, verset 13 du chapitre 7, qui s'avance vers l'Ancien des Jours. On le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son règne ne sera jamais détruit. Eh bien voilà, il est annoncé qu'il y aura un être vraiment humain qui un jour dominera sur le monde entier. Et quand Jésus apparut, il s'est toujours appelé, lui, le Fils de l'homme. Et les gens qui étaient théologiens de ce temps-là savaient très bien à quoi il se référait. Et c'est pourquoi, quand il a été arrêté, après avoir institué la Sainte Cène, arrêté dans le jardin de Gethsémané, et conduit dans la maison de Caïphe, Caïphe
est le Fils de Dieu en s'intitulant le Fils de l'homme. Alors j'espère que vous avez bien compris cela. Quand Jésus dit qu'il est le Fils de l'homme, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu, hein, mais il insiste sur ce fait qu'il a revêtu notre humanité. Alors, quand vous avez bien compris cela, vous pouvez lire l'Écriture. Ce n'est pas le fils de Joseph, c'est celui qui est l'homme par excellence. Puisque le premier homme a péché, Dieu envoie le second homme pour nous montrer quelle était sa pensée au sujet d'une vie humaine. Et la vie que nous devrions avoir, c'était la vie de Jésus. Mais pas une vie de douleur, pas une vie de souffrance. Jésus était sans péché et il n'aurait pas dû subir les conséquences du péché. Mais pourtant, il a voulu revêtir notre humanité douloureuse, quoiqu'il n'ait pas de péché, pour pouvoir sympathiser avec toutes nos peines. Il n'y a aucune peine qui n'ait touché Jésus, de sorte que lui peut vous comprendre et lui peut vous aider. Vous avez compris maintenant qui est ce fils de l'homme, comme on l'a dit hier soir, hein, on posait la question, mais qui est ce fils de l'homme? Ben vous savez, et qui est ce fils de l'homme? Et vous savez maintenant quels sont ses droits. Alors maintenant, quand je parle de la foi, que ce fils de l'homme a droit à trouver de la foi à son retour dans nos cœurs, qu'est-ce que c'est que la foi? Bien, j'espère que vous avez bien compris que quand on lit la parole, eh bien, on doit rechercher le sens des mots, la signification des mots. Et le même mot peut avoir des fois plusieurs sens. Le mot foi dans l'Écriture peut désigner l'ensemble des vérités du christianisme. Ainsi, l'apôtre Jude dit qu'il écrit aux croyants pour le raviver leur foi, pour les édifier sur la foi qui a été enseigner aux saints une fois pour toutes. La foi, dans ce sens, c'est l'ensemble des vérités du christianisme. C'est le sens qu'a le mot foi dans les épîtres à Timothée. C'est pas simplement l'adhésion du cœur au Seigneur, mais la foi, c'est les vérités chrétiennes. Voilà ce que ça recouvre. La foi peut être les vérités chrétiennes dans leur ensemble. Maintenant, la foi, dans son sens habituel, c'est la croyance qui repose sur un témoignage. Je souligne bien que la foi, c'est pas la croyance en Dieu. Croire en Dieu, il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour croire que Dieu existe. C'est pas croire que Dieu existe, parce que le diable lui-même y croit et les démons frissonnent devant lui. Les hommes disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne se soucient pas de lui. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Parce que s'ils avaient la foi, ils prendraient Dieu au mot. La foi, eh bien, c'est cette confiance que l'on a dans la parole de Dieu. Dieu a déclaré certaines choses, il nous a apporté un témoignage, et comme c'est le témoignage de Dieu qui ne peut pas mentir, nous le recevons. C'est ça la foi. La foi, elle vient, dit saint Paul, de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Il a déclaré ça, j'ai foi en sa parole. Je crois ce qu'il a dit. Non pas je crois qu'il existe, mais je crois ce qu'il dit. Si Dieu existe, il a dû parler, et maintenant sa parole, c'est une parole divine. Avoir la foi, c'est croire le témoignage de Dieu. Croire ce qu'il dit de nous, que nous sommes perdus à ses yeux, que nous sommes pécheurs, et croire ce qu'il dit de son Fils, c'est lui votre sauveur, et il a tout accompli pour votre salut. Croyez éperdument en lui, et vous n'avez plus à vous soucier de cette question de votre salut. Il a fait votre salut. Vivez maintenant dans la grâce. Vivez de foi, en croyant ce que je vous ai dit. Mais maintenant, la foi, elle peut être petite ou grande. C'est-à-dire que la foi étant aussi notre confiance dans les promesses de Dieu, eh bien, on peut dire au Seigneur, Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, viens en aide à notre incrédulité. Et nous devons, quand nous prions en particulier, être de ceux justement qui savent ce qu'ils demandent et qui croient que ce qu'ils demandent, eh bien, leur sera donné. C'est cette confiance que nous avons dans le Seigneur. Alors, augmente ma foi, c'est augmente ma confiance en toi, dans la certitude que tu réaliseras pour moi, à ton heure, toutes tes promesses. Voilà ce qu'est la foi. Mais maintenant, il y a aussi le don de la foi, qui n'est pas ce qui nous sauve, c'est un don de l'esprit, qui fait partie des 9 dons qui sont énumérés dans le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens. Alors, le don de la foi, celui qui a reçu le don de la foi, c'est un don particulier qui lui permet à lui de faire des choses qui ne me sont pas permises à moi parce que je n'ai pas reçu ce don-là. J'ai peut-être reçu un autre don. Ainsi, des hommes comme Georges Müller, qui a eu la vision d'ouvrir, de créer des orphelinats pour les malheureux au siècle dernier, pour les enfants en Angleterre. C'est un homme qui avait reçu ce don de foi, il n'a fait aucun appel d'argent, et il a commencé, et le Seigneur lui donnait tout ce qui était nécessaire, parce qu'il avait reçu ce don-là. Cette confiance extraordinaire qu'il pouvait aller de l'avant. Mais si vous, ayant lu la biographie d'un Georges Müller, ou d'autres personnes au cours de l'histoire de l'Église qui avaient reçu ce don de foi, si vous voulez les imiter, qu'est-ce qui vous arrivera? Un échec complet. C'est la faillite totale, parce que vous n'avez pas été appelé à cela. C'est pourquoi il est dit que nous ne devons pas dépasser la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il ne nous demande pas à tous de faire la même chose. Moi, je n'ai pas vos dons et je ne puis pas faire nécessairement ce que vous faites. Vous ne pouvez pas faire nécessairement ce que je fais. Ce que nous avons à imiter dans nos frères, ce n'est pas leur don, mais c'est leur vie d'amour pour le Seigneur. C'est ça. comprenez-le bien. Vous n'avez pas à faire exactement ce que l'autre fait. Vous n'êtes peut-être pas du tout doué pour cela. Vous n'avez pas reçu cette grâce-là, mais vous en avez reçu d'autres. Alors, excellez dans la grâce qui vous a été départie. Et alors, vous serez pleinement pour le Seigneur. Toute chose, faites-le de cœur pour le Seigneur. Si vous êtes cordonnier, faites vos souliers pour le Seigneur. Et faites-les d'une manière qui ne blesse pas ses pieds. Comprenez-vous? Faites toute chose de cœur pour le Seigneur. Le Seigneur a eu besoin de souliers. Il a eu besoin de sandales. Eh bien, vous vous dites, les sandales que je les fais pour le Seigneur. Parce que je vois le Seigneur dans mes frères. Comprenez-vous? Alors, ça change complètement notre manière de travailler, notre manière aussi de facturer. Parce que c'est toujours au Seigneur qu'on facture. Alors, on ne le vole pas. Alors, on ne vole pas son prochain. Alors, ça devient très pratique. Ces vérités qui ont l'air d'être de la morale, non, ça devient notre vie. On pense à ces choses et on fait toutes choses de cœur comme pour le Seigneur. C'est le Seigneur que l'on traite quand on traite son prochain. Comprenez-vous cela? Dans mon prochain, je dois avoir le Seigneur. Le Seigneur, il est parti tout au fond du ciel. Le Seigneur, il est là, chez les êtres qui sont autour de moi. Et c'est d'après l'attitude que j'ai vis-à-vis de ces êtres qu'on voit la réalité de mon amour pour le Seigneur et la réalité de mon salut. Vous pouvez dire 36 fois que vous êtes désauvé et puis toute votre vie démontre que vous n'êtes pas sauvé. Parce que votre vie n'est pas la vie d'un homme vraiment sauvé. Parce qu'un homme vraiment sauvé, c'est un homme qui est en Jésus et en qui Jésus se trouve. Voilà, c'est ça. Rien d'autre. C'est pas avoir des certitudes, une théologie, une doctrine, et puis prendre tous les autres pour des païens ou pour des pas chrétiens. Je déteste ces phrases que telle personne, c'est pas des chrétiens, qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous l'êtes vraiment chrétien? Est-ce que vous l'êtes dans votre vie? Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? C'est manifester que nous sommes la bonne odeur de Christ, que nous apportons ce parfum de Christ, que nous sommes sa lettre, que nous incarnons sa volonté, et alors que nous devenons son image auprès des hommes et que nous pouvons être nommés ses ambassadeurs. Nous avons quelque chose à dire avec autorité aux âmes que nous rencontrons. Alors, maintenant que j'ai dit quelques mots sur ce qu'est la foi, eh bien, maintenant, nous pouvons terminer par cet encouragement que le Seigneur a voulu nous donner et aussi par cet avertissement que quand il viendra, il pose cette question, est-ce qu'il y aura encore de la foi sur la terre? Est-ce qu'il y aura encore des gens qui croient vraiment? Vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Est-ce qu'il y aura encore des gens qui mettent leur confiance dans le Seigneur? Ou est-ce qu'il ne trouvera que des gens qui sont assurés de tous côtés, même contre le risque d'un miracle, hein, parce qu'il y a des assurances touristes. Alors, le Seigneur ne peut plus intervenir, on a nos assurances. Hein. Et alors, on se repose là-dessus. Tandis que si peut-être on avait moins de tout ça, le Seigneur serait obligé d'intervenir et de nous montrer sa puissance pour nous délivrer, parce qu'on n'a que le Seigneur. Et quand on n'a que le Seigneur, on voit le Seigneur à l'œuvre. Mais si on a tous les appuis humains, que voulez-vous? Le Seigneur dit, je n'ai pas besoin de me déranger pour eux. Mais pour celui qui n'a rien, pour le pauvre, pour le misérable, le Seigneur est prêt. Alors mettez votre confiance en lui. Et puisque nous allons entrer dans des jours difficiles, Jésus adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je vous l'ai demandé avant-hier de prier, ou peut-être hier, hein, je vous ai averti qu'il y avait des puissances à l'œuvre, des puissances de ténèbres, pour détruire, pour chercher à enlever la confiance des bien-aimés qui sont ici, pour les faire douter, ou pour les retenir, pour qu'ils ne se donnent pas entièrement au Seigneur. Eh bien, nous voulons prononcer avec l'autorité du Saint-Esprit la victoire du Seigneur Jésus sur toutes les puissances de l'ennemi. Il en a triomphé à la croix, il en est le vainqueur, et rien ne pourra paralyser l'œuvre que le Seigneur veut faire complètement dans chacun de vos cœurs, parce que c'était le but du camp. Si vous relisez le texte qui a été écrit dans le dépliant, le but du camp, c'est que réellement il y ait ici des hommes et des femmes qui se consacrent entièrement au Seigneur, qui prennent position définitivement, qui ne clochent pas des deux côtés, qui se disent, eh bien c'est tout ou rien. Est-ce que vous êtes des tout ou rien? Plus de tiède, plus de peureux, plus de lâche. Vous avez entendu la parole du Seigneur, si vous la croyez, vous allez de l'avant et vous ne serez pas déçus. Et quels que soient les temps qui vont venir, et nous devons vous les annoncer, ces temps difficiles, eh bien, il est dit que nous devons toujours prier et ne point nous relâcher. Le secret pour traverser ces temps, c'est la prière. Alors Jésus, pour les encourager, sachant donc que ces temps qui précéderont son retour seront difficiles, il nous enseigne comment nous devons prier. Et il donne une parabole. Il y avait, dans une ville, un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me rompre la tête. » Vous avez bien compris cela, hein? C'est clair. Alors, le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique. » Et Dieu, il met en opposition, le juge unique est Dieu, hein, qui n'est pas unique, lui. Alors, si un juge unique arrive parce qu'une femme l'importune à faire ce qu'elle désire, combien plus Dieu, qui ne se laisse jamais importuner, qui est un père juste et bon, combien plus Dieu fera-t-il justice à ceux qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il, ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Voilà, pour assurer que nos requêtes auront un exaucement, Jésus a donc mis en contraste la manière d'un juge de la terre, un unique, avec la manière du Dieu d'amour, plein de sollicitude pour les siens. Alors, grâce à sa persévérance près du juge unique, la veuve a obtenu gain de cause. À plus forte raison, ceux qui s'adressent à Dieu seront-ils certains d'avoir une réponse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils se trouvent? Est-ce que c'est là votre pensée? Est-ce que vous croyez que si vous vous adressez à Dieu, quelles que soient vos circonstances, il peut vous répondre? Bien, est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas trop souvent déranger le Seigneur? Quelle est votre vie de prière? Est-ce que vous n'allez au Seigneur que dans les grands moments de votre existence? Combien y a-t-il de grands moments dans votre existence? Votre vie, elle est faite de combien de grandes choses? Si vous allez à Dieu seulement dans les grands moments de votre existence, vous n'y allez, pour ainsi dire, jamais. C'est vrai, il n'y a pas tellement de grands moments. Il y a un tas de petits moments, oui. Une foule de petits moments. Il y a une foule de petites choses, et c'est ces petites choses qui sont empoisonnantes. Pourquoi est-ce que vous vous laissez empoisonner? Allez à Dieu dans ce qui est empoisonnant. C'est justement cela qu'il voudrait. Vous savez de quoi il avait soif, le Seigneur, sur la croix? De quoi l'a-t-on abreuvé? De vinaigre, mais il y a du vinaigre dans vos cœurs. Je le sais. Il y a encore du vinaigre dans vos cœurs. Il y a encore de l'amertume. Il y a encore des choses qui, peut-être, vous chicanent. Mais le Seigneur dit, j'ai soif. Laissez l'éponge aller dans le vase de votre cœur. S'imprégner de tout ce qui reste d'amer, de fiel. Le Seigneur dit, je vais boire tout ça pour que tu l'aies plus. Et il meurt avec tout cela pour que nous vivions. Et puis que notre cœur étant délivré de tout fond d'amertume, il puisse verser dans nos cœurs sa paix parfaite. C'est ça qui est merveilleux. Qu'y a-t-il dans votre cœur? Est-ce que vos cœurs sont ouverts au Seigneur? Est-ce que vous laissez l'éponge descendre pour qu'il ne reste rien? Aucune souillure, aucune impureté, Seigneur. Oui, prend tout, Seigneur. Il a tout bu et il est mort en ayant bu le poison qui était dans ma vie pour que moi, je ne sois plus un empoisonné. Il y a des sauvés qui ont l'air drôlement empoisonnés. Ils nous disent qu'ils sont sauvés, puis ils sont des poisons. Alors vous comprenez, leur témoignage n'a pas beaucoup de force. Puis on ne les voit pas libérés, on ne les voit pas délivrés. Alors, venez à Jésus. Dites-lui, Seigneur, ben je crois. Je crois que tu as tout pris. Et puis, quand vous priez, croyez qu'il interviendra. Puis si vous dites, mais moi, il y a si longtemps que je prie pour ça, puis il n'est pas encore intervenu. Est-ce que vous êtes découragé? Le vieux Zacharie qui avait demandé un enfant, voilà que depuis longtemps, sa vieille Élisabeth n'était plus en âge d'avoir un enfant, puis tout à coup, un ange lui apparaît, alors qu'il offre le parfum à l'autel, et puis, il lui dit, Zacharie, tes prières sont exaucées. Quelle prière? Quelle est la dernière prière de la semaine passée, Jésus? C'est pas la semaine passée, c'est il y a 40-50 ans. Quoi? Alors, il est tellement suffoqué qu'il en devient muet. Muet pendant toute une grossesse. Quel fait pour sa femme! Et c'est quand elle est délivrée, quand elle a le petit Jean-Baptiste qui commence à parler. Puis prononce cette merveilleuse prière. Après avoir été muet, on peut parler. Et c'est le Bénédictus. Vous le connaissez? La prière de Zacharie. C'est tellement beau. Ça explose. Il a dû être muet pendant 9 mois. Mais il a quand même pu entendre le Magnificat de Marie. Quand on est muet, on peut mieux écouter. Ça devait descendre drôlement en lui, hein, les paroles de Marie. Que c'est beau la parole. Un carême, vous vous en souvenez. Le lieu où Marie a rencontré Élisabeth en Israël. Le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon. Et nous allons bientôt le voir. Le Seigneur répond à nos prières, pas toujours à l'heure que nous voudrions, mais toujours à son heure. Et c'est la bonne heure. Comprenez-vous? Après, on se dit, mais heureusement qu'il n'a pas répondu avant, parce que ça aurait été, c'était pas le moment. Et on se dit, mais c'est merveilleux, notre vie, elle est minutée par Dieu. Et on voit vraiment les signes de Dieu dans notre vie. Mais on ne comprend pas toujours pourquoi il ne répond pas immédiatement. Il n'est jamais à l'heure, jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Je voulais dire qu'il est jamais à l'heure que nous voulons, nous. Mais il est à l'heure qui est la sienne et qui est la meilleure pour nous. Comprenez-vous? Alors, on s'inquiète pas. Mon Père le sait. Alors, je suis tranquille. C'est pas un idiot, notre Père. Il nous aime. Et regardez comment nous sommes idiots. Vous êtes en train... Nous sommes en train de dire à Dieu, mais dites-moi un de vos besoins, qu'est-ce que vous voudriez, vous? Alors dites-moi. Oui, mais il n'y en a pas un qui voudrait de la patience un peu plus? C'est vrai? Vous aimeriez avoir un peu de patience? Bon. Quoi? Tu as besoin de patience. Mais tu vois, ça craque. Quand tu demandes la patience, ça craque. Mais vous avez déjà lu le chapitre 5 des Romains? Vous demandez à Dieu la patience, c'est vrai, hein? Eh bien, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé accès à la foi, dans laquelle nous, à cette grâce dans laquelle nous sommes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations, car la tribulation produit la patience. Alors nous demandons à Dieu, donne-nous de la patience, puis nous arrive une petite tribulation, puis on dit, oh Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Délivre-moi, c'est votre exaucement de prière. Il vous amène justement dans une situation où il va exercer votre patience, où il va permettre à votre patience de se manifester et de croître. Mais vous, la patience, vous aviez une toute autre idée de ça. C'était une petite colombe qui allait descendre tranquillement sur vous, une grâce comme ça. Et voilà, maintenant vous serez patient. Vous dites au Seigneur, Seigneur, je te demande que je sois plus humble, donne-moi l'humilité, que j'ai un visage humble. Vous demandez l'humilité? Oui? Eh bien, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous serez humilié. Mais comment? Moi? Ah non, mais je ne mérite pas ça. Mais c'est humiliant. Vraiment, nous sommes idiots. Nous demandons des choses, puis le Seigneur est en train de nous répondre, puis nous dit « Arrête !» Nous sommes pleins de contradictions. Alors ouvrons-nous un peu, guérissons de nos maladies, et puis alors, nous serons pleins de santé, et nous ne murmurerons plus, et nous serons heureux, et puis nous croirons que le Seigneur, quand il nous éprouve, c'est toujours pour notre bien et que toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous aurons cette foi. Et alors, cette foi en son retour. Et je vous parlerai de ce retour demain. Que la grâce du Seigneur nous soit donnée. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Diminution de la foi dans les derniers temps. Diminution de l'espérance, diminution de la charité. Parce que l'iniquité ira en empirant, l'amour de plusieurs se refroidira. Et ce n'est pas le mal du siècle. L'amour pour le Seigneur, il est refroidi dans mon cœur. Et quand l'amour du Seigneur est refroidi dans mon cœur, nous n'aimons plus notre prochain comme nous devrions l'aimer. Mais il n'est pas simplement question que le Seigneur trouve de l'amour dans nos cœurs. Il n'a pas seulement droit à notre amour. Il n'a pas seulement droit à nous voir espérer son retour. Il a droit à voir la foi des hommes et des femmes qui le croient. Et quand le monde verra votre foi, il croira au Seigneur Jésus. Mais votre foi, c'est une foi, justement, qui sera exaucée. Prions. Seigneur Jésus, quand tu reviendras, trouveras-tu la foi dans nos cœurs? Est-ce que nos dernières journées, nous ne voulons pas les vivre dans la foi, dans cette confiance éperdue en tes promesses, pour que nous puissions voir notre vie transformée, notre vie transfigurée, que nous ayons une force nouvelle pour traverser toutes les épreuves, quelles qu'elles soient, sachant que toujours tu proportionneras nos délivrances à la profondeur de notre détresse et de notre épreuve. Mais donne-nous de venir à toi en tout temps, de te remettre tous nos soucis, tous nos fardeaux, et de savoir nous réjouir en attendant que tu nous répondes. Et donne-nous d'être toujours d'accord
avec tes réponses, car tes réponses sont des réponses d'amour. Souvent, nous ne savons pas même comment te demander les choses. Nous ne savons pas même si c'est pour notre bien que nous te demandons ceci ou cela. Alors, tu permets que nous soupirions. Et nous savons que l'esprit qui sonde notre soupir et présente une requête intelligente devant toi, qui vient de notre propre soupir. Puisque nous n'avons pas pu formuler notre demande, tu nous viens en aide par des soupirs. Ô Seigneur, exauce les soupirs qui montent des cœurs ce soir, dans cette salle. Exauce les soupirs que toi seul tu connais. Les requêtes silencieuses, exauce-les. Et que demain, dès l'aurore, nous puissions vivre une journée d'attente, une journée de joie, une journée où tu nous recrées dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Pour la gloire du Père, au nom du Fils, et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.